Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler des 500 miles d'Indianapolis cette semaine et de Daytona. Lilian, salut Lilian.
Salut Geoffroy et bonjour à tous.
T'es sorti de ton dessous ton dolmen?
C'est ça, mais maintenant je suis dans le Cantal.
Ah bah une meule s'il te plaît.
Voilà, c'est ça.
L'affaire.
Et Aloïs est là. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Était du côté de d'Indianapolis en fait, puisque ce sont les 500 miles qui se déroulent depuis mercredi maintenant, avec des essais dans tous les sens, des qualifications samedi et dimanche. Et en fait, à chaque fois, messieurs, on n'a vu qu'un seul constructeur. On s'attendait à ce que Chevrolet domine avec la Penske. Finalement, il n'y a pas de Penske, il n'y a pas de Chevrolet, et c'est Honda qui met une fessée, pour rester poli, à tout le monde, Aloïs.
Ah, c'est même plus une fessée à ce niveau-là. Mais vous pouvez quand même recréer cette sensation chez vous. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'huile. Vous avez absolument le même résultat que sur la ligne de départ pour l'Indy 500. Les Honda au-dessus, les Chevrolet en dessous.
Je m'attendais à pire, ok.
Non, mais en vrai, Honda a quand même infligé une sacrée correction aux Chevrolet. Et quand on regarde le classement, il n'y a bien que Rinus Vicky pour hisser les couleurs de Chevrolet à un rang respectable. Même les Penske ont totalement été laminés.
On a une Chevrolet dans le top 12. Tu l'as dit, c'est Rinus Vicky qui est quatrième. Lilian, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça picote sévère de chez sévère cette affaire.
Bah, ça fait quand même partie des grosses surprises. Tu l'avais dit, on attendait Chevrolet, surtout la Penske. Et puis, bah, étonnamment, la Penske, on l'a vu sur certaines séances d'essai, mais complètement en dedans lors des qualifications. Et puis, bah, Honda, on a profité. Et par contre, et ça n'est pas une surprise, on a les monoplaces Andretti qui, elles, ont répondu bien présent.
Bah oui, plus que... enfin, bien présent sur la première journée de qualif. Par contre, sur le Fast Nine, finalement, c'est décevant. Hormis la pole de Marco Andretti, ça fait 5, 6 et 9. Alors que clairement, ça pouvait faire 1, 2, 3, 4. Mais bon, c'est peut-être aussi le vent qui a joué.
Oui, c'est ça, c'est un facteur, ouais.
Et puis, Marco Andretti. A quand même l'air d'avoir la monoplace cette année encore. Comme souvent, né pour gagner l'Indy 500, mais va-t-il seulement réussir à faire ce que son grand-père n'a fait qu'une seule fois, ce que son père n'a jamais réussi à faire, ce que son oncle n'a jamais réussi à faire, c'est-à-dire mettre le nom de Andretti sur le BorgWarner Trophy, chose qui n'a été faite qu'une seule fois par Mario. En 1969, si je ne dis pas d'ânerie à Louise.
Là encore, je te fais confiance sur cette statistique. Je ne suis pas le meilleur en statistique, donc je te fais confiance aveuglément. Mais je m'étais quand même fait une petite réflexion l'autre jour, après les qualifications. Je me suis dit, il y a bien qu'en 2020, une année si exceptionnelle et si bizarre avec tout ce qui se passe dans le monde, que Marco Andretti remporte les qualifications et probablement le grand favori pour remporter l'Indy 500. Ce qui est assez incroyable quand on connaît le passé de Marco à l'IMS.
Et oui, mais bon, c'est comme ça. Alors, je suis en train de vérifier en même temps parce que ouais, c'est bien ça, c'est bien 1969. Je ne dis
C'est
pas que des
bon.
bêtises. C'est bon, je peux rester pour la semaine prochaine.
Ta mémoire est encore bonne, c'est bon, on peut te
C'est
garder.
ça. Donc ouais, ben Andretti qui est là. Année
Du coup,
exceptionnelle. Oui, vas-y, Aloïs.
je vous pose une question, les amis. Pression ou pas pression du côté de la 98 de Marco Andretti?
Forcément pression, parce que forcément on ne parle que de ça. La 98 qui a été deux fois, alors c'est pas une victory lane, mais voilà, qui a gagné deux fois à Indianapolis. La dernière fois avec le regretté Dan Weldon en 2011. Donc oui, forcément un minimum de pression. Puis enfin, faut pas oublier quand même que Marco Andretti, bien qu'il ait deux victoires dans sa carrière, Sonoma en 2006 et l'Iowa en 2011-12, ne vit que sur cette deuxième place aux 500 miles 2006, battue d'un rien par Sam Ornie Jr.
Oui, puis avec un nom très connu.
Et avec un nom très connu, bien évidemment. Donc oui, c'est compliqué pour. Je pense que ça va être très compliqué pour Marco Andretti cette période. Je pense que lui aussi, comme ses 32 adversaires, doit se dire vivement dimanche qu'on soit tous sur la piste et que le meilleur gagne, quoi. C'était 2011, sa dernière victoire en Iowa, Mario Andretti. Donc ça fait 11 ans qu'il n'a plus rien gagné.
Moi, je pense que ce sera peut-être même carrément la course de sa vie, parce que ça fait quand même pas mal d'années que Marco Andretti est en galère. On en a attendu mondes et merveilles. Malheureusement, ça n'est jamais venu. Alors oui, il a un grand nom à porter sur les épaules, c'est clair. Mais là, il a la voiture à Indianapolis. Ça n'était pas arrivé ces dernières années. Là, clairement, je pense qu'il y a quelque chose, à jouer. Clairement.
Ah, globalement, à Indianapolis, Marco Andretti, c'est une année sur deux. Et c'est souvent les années paires. C'est deuxième en 2006, troisième en 2008, encore troisième en 2010. Quatrième en 2013, troisième en 2014, sixième en 2015 et huitième en 2017 pour ses résultats dans le top 10. Donc voilà, et à côté de ça, ça peut être parfois des accidents spectaculaires et des abandons, notamment en 2009, où il termine 30e. Donc,
En tout cas, ça sera le fil rouge de l'Indy 500 de voir et attendre de voir si Marco Andretti peut jouer la victoire dans les derniers tours. Et même soulever le trophée dimanche soir.
Effectivement. Alors, est-ce que vous, justement, vous y croyez à Marco Andretti victorieux dimanche?
Il a démontré qu'il y avait la meilleure voiture en qualification, puisqu'il a remporté la pole. Et les Andretti, dans leur ensemble, bien que la 98 soit une écurie satellite de l'écurie mère d'Andretti, elles ont toutes montré être rapides pendant les essais. Et on connaît le pédigré d'un pilote comme Marco Andretti et le pédigré d'une écurie comme Andretti Motorsports en IndyCar et également à l'Indianapolis Motor Speedway. Donc, à mon avis, il a la victoire dans le volant, mais il va falloir que les nerfs tiennent, comme on l'expliquait quelques secondes auparavant, mais je vois pas pourquoi il ne pourrait pas gagner cette course, outre le fait outre que ce soit un problème psychologique de son côté.
Lilian ?
Alors je pense qu'il faudrait faire attention à la Penske, parce que c'est pas la première année où ils sont à la rue en qualification.
Oui, ça fait quand même très très longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi mal classés à l'Indy 500.
Bah, notamment, on avait retrouvé la stat dimanche.
2002.
On avait plus récent même, mais on avait le vainqueur en titre de la course.
Le moins bien classé, le vainqueur en titre.
Non, Pagenaud, il est 26, c'est ça?
Non, 25.
25.
C'était, je crois, la 28e place de Takuma Sato en 2018, qui avait gagné en 2017.
Mais je pense qu'il faut quand même se méfier de la Penske, avoir les réglages qu'ils ont fait sur leur monoplace, peut-être justement déjà peut-être plutôt des réglages faits pour le trafic. Et je pense que clairement, il ne faut pas enterrer les 4 Penske, puisqu'ils seront 4 pour cette course avec l'ajout d'Elio Castroneves, comme souvent pour cette classique. Ouais, j'attends dimanche avec impatience.
Ouais, c'est 13e, 22e, 25e, 28e. Alors, OK, il va y avoir un train sur la ligne intérieure en fond de peloton, parce que 22, 25, 28, ça se suit sur la ligne intérieure, mais c'est quand même étrange. Et la dernière fois, messieurs, qu'on n'a pas eu un pilote Penske dans le top 10 en qualif à l'Indy 500, est-ce que vous pouvez le dater?
Oula, pas du tout.
Oh, on l'avait trouvé la stat, c'était il y a 2018, quelque chose comme ça. C'est pas l'année où Montoya gagne?
Non, c'est 2002. 2002, c'était Helio Castroneves qui était 13e devant Gilles de Ferrand, 14e. Il n'y avait que deux monoplaces Penske à cette époque-là. Et qui a gagné la course en partant 13e cette année-là? Helio Castroneves. Et qui est 13e cette année?
Joseph Newgarden.
Joseph Newgarden.
Voilà, je dis pas que les planètes des chiffres sont alignées, mais ça, des fois, ça arrive, ce genre de petites coïncidences. Donc, on verra bien dimanche. Maintenant, la Andretti et Honda ont un avantage à la Penske et au Chevrolet de contrecarrer ses plans. C'est vrai que de pas voir de monoplace Penske rapide à Indianapolis, la première année de Roger Penske en tant que patron du tracé et de l'IndyCar, ça fait bizarre.
Ça la fout mal.
Oui, voilà, c'est plus qu'étrange. Voilà, je pense qu'on a bien parlé de la Penske, on a bien parlé d'Andretti, on peut peut-être quand même parler de la suite de la grille de départ. Deuxième, Scott Dixon, qui s'est mis en travers, en tête à queue, sur les essais qui ont suivi les qualifications du Fast 9, mais ça n'a pas prêté à conséquence. Messieurs, sur 4 tours, Scott Dixon, il échoue à 11,5, c'est ça, millième 11,3 millième de Marco Andretti.
On est sur des moyennes de 231,068 et 231,051.
Ça fait 17 millièmes du coup.
Non, ça c'est la vitesse moyenne. Ouais, la vitesse. Ah oui, j'ai rien dit. Je te parle bien de l'écart au temps. Il y a bien 11 millièmes entre les deux hommes sur 4 tours.
Bah, c'est pas beaucoup, hein.
11,3 millièmes sur 4 tours.
Pour une fois qu'un écart aussi minime est en faveur de Marco Andretti, c'est à souligner.
Il s'en est fallu d'arien, parce que au plus les tours passaient, au plus il ralentissait, si on peut dire ça, ralentir. Il a fait le tour le plus rapide, mais après, ça n'a fait que descendre et ça a été tout juste pour conserver la pole.
C'est ça. Il a fait un premier tour. Ouais, ça, c'est le premier tour qui fait réellement la différence.
Il est à plus de 200. Oh, il passe les 232.
Ouais, alors j'ai pas le temps exact, mais il est en 8222. C'est à peine 232, je crois. C'était 231,7 ou 231,9. Donc, ouais, c'était déjà très rapide à ce moment-là. Et c'était le seul à tutoyer les 240 miles par heure en vitesse de pointe à l'approche du virage numéro 1, ce qui est quand même assez fou. Et il l'a répété pratiquement sur le tour 2, sur le tour 3 aussi, quoi. Donc, il était très fort, Scott Dixon. Enfin, il choue d'un rien. Et derrière, après, les écarts sont un peu plus prononcés puisqu'on est quand même au-delà du dixième. Takuma Sato, qui est troisième, messieurs. Pareil, un ancien vainqueur, Takuma Sato. Une première ligne, finalement, cosmopolite.
Peut-être cosmopolite, mais c'est des périodes d'expérience à Indianapolis.
Ouais, c'est ça. Et des pilotes aussi qui parfois en ont pris des belles à Indianapolis. Que ce soit Marco Andretti qui a fini sur le toit, Scott Dixon, il y a une année qui s'était envolé dans le virage 1 et 2. Takuma Sato, de mémoire, nous en a fait une belle avec Dario Franchitti.
Ouais, ouais, c'est à l'amorce de l'avant-dernier tour, la dernière année où Dario Franchitti gagne l'Indy 500.
C'est ça, ouais, je me demande si c'est pas dans le virage 1 d'ailleurs aussi.
C'est à l'entame du dernier tour même, je pense.
Ouais, hein. Oui, je crois que c'est l'entame du dernier tour.
Le drapeau blanc.
Ouais, ouais.
Ah, j'avais un doute si c'était l'avant-dernier ou le dernier, parce que je sais que Dario Franchitti gagnait sous drapeau jaune.
Mais je crois qu'il sort le jaune parce qu'il se met tellement bien en vrac, Sato, que passer à fond, ça devient compliqué.
En tout cas, c'est Lilian, c'est trois pilotes de grande expérience à Indianapolis et ce n'est pas surprenant qu'il compose la première ligne au final de cette édition.
Effectivement. Sur la deuxième ligne, nous aurons Rinus Vicky, un rookie, Ryan Hunter-Reay, un ancien vainqueur, et James Hinchcliffe, l'homme des montagnes russes sur les qualifs des 500 miles ces dernières années.
C'est ce que j'allais te dire, ouais. Enfin, il arrive à se qualifier.
Soit il se qualifie dans les premières lignes, soit il ne se qualifie pas du tout.
Et, oui, et belle perf quand même de Rinus Vicky, qui est. Voilà, c'est même plus un arbre. Hein, c'est une plante, en fait, hein, qui cache la forêt, quoi, chez Chevrolet. C'est un petit miracle de voir ça, quoi.
Parce que même son coéquipier et patron, Ed Carpenter, n'est que sur la sixième ligne.
Et Dieu sait que Ed Carpenter est un excellent pilote à Indianapolis.
Oui, ancien poleman d'ailleurs. Et même Spencer Pigot dans la 45 est devant, puisque Spencer Pigot est 12e.
Est-ce voilà. qu'il n'est pas dans la même écurie? Parce que Spencer Pigot.
C'est Dural.
Mais non, Spencer. Ah oui, pardon. Oui, pardon.
C'est Pat Howard qui est dans la même écurie?
Non, Pat Howard, c'est la 5, c'est Arrow. C'est Arrow McLaren. Non, j'ai. Pardon.
C'est Connor Daly qui est cher. Ed Carpenter, pardon.
Oui, c'est Connor.
La 47.
Et qui, du coup, est derrière.
Il est deux places derrière, c'est ça, sur la même ligne.
Oui, non, j'ai les yeux confourchés. J'ai vu Spencer Pigot, au lieu de lire DHF, j'ai lu DCF. Et donc, c'est un pilote Honda, donc ça ne peut pas être un Carpenter. Voilà, je dis une bêtise. Et la troisième ligne, messieurs, encore un rookie, Alex Palou, Graham Rahal et Alexander Rossi. Donc, un ancien vainqueur, deux pilotes d'expérience et un rookie sur cette troisième ligne.
Je pense que Graham Rahal et Alexander Rossi, comme d'habitude, seront de sacrés clients pour la victoire.
Oh oui,
ouais, c'est clair.
Est-ce que vous voyez le vainqueur en dehors du top 9?
Je vais être biaisé parce que j'ai pronostiqué Marco Andretti pour la gagne. On peut dire que non.
J'ai les mêmes arguments qu'à Loïs parce que j'ai Prono Rossi qui est 9e.
C'est pas faux.
Honnêtement, ouais. Tout est possible à Indianapolis, mais en dehors du top 9, on ne trouve que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Honda. Donc, j'ai envie de dire non.
Effectivement. Effectivement, après...
Après ça, il peut arriver tellement de choses.
Comme tu le disais, Lilian, tout à l'heure, il faut toujours, toujours, toujours se méfier des Penske à Indianapolis. Surtout pour avoir la première année de Roger Penske à la tête de l'IMS.
Ouais, et puis même à Tony Kanaan, qui sait, hein.
On sait exactement.
Son dernier Indy 500, je pense.
Pardon ?
Je dis, je pense que ce sera son dernier Indy 500, puisqu'il arrête la compétition à temps complet. Je ne sais pas s'il fera comme Castro Neves à revenir juste pour l'Indy 500, mais.
Ça reste des clients, quelles que soient leurs conditions à Indianapolis.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Puis j'allais ajouter que Fernando Alonso, bien qu'il soit un petit peu invisible cette année à Indianapolis, on a vu qu'à sa dernière participation, il était dans le rythme pour la gagne également. Donc,
Il n'a pas été invisible toute la semaine, hein. Malheureusement.
On l'a vu dans le mur, c'est vrai.
Mais avant ça, il était rapide. Enfin, il n'était pas lent.
Oui, donc ce que je veux dire, c'est que ça reste un pilote d'élite dans les monoplaces à l'échelle mondiale. C'est pas un pilote qu'il faut effacer des tablettes de la Gagne 3 rapidement également. Je pense que ça va mettre dans le même panier que la Penske, Tony Kanaan. J'aurais envie de rajouter Santino Ferrucci. J'étais un petit peu surpris de sa 19e place. Puis, en étant en Honda et après avoir démontré d'excellentes aptitudes l'année dernière, c'était à mon avis le pilote le plus agressif et qui a réalisé les plus beaux dépassements en 2019 lors de l'Indy 500. Je pense que ça peut être aussi un client. Ed Carpenter, c'est la même chose que Tony Kanaan. Ça reste un excellent pilote à Indianapolis. Toujours en capacité de sortir le run qu'il faut pour accéder au premier rang. Donc, il y a du monde quand même dans la seconde partie de peloton. Mais est-ce que ce sera suffisant? Est-ce que les Chevrolet seront assez bonnes pour rivaliser avec les Honda pendant la course?
Oui, c'est un petit peu le...
Est-ce la que dans le paquet, ouais.
Et après, quelle va être la conso? On sait quand même que ces dernières années, Chevrolet axait tout sur la vitesse de pointe, alors que Honda était un peu plus économe en termes de carburant. Est-ce que là, en fait, cette année, c'est l'inverse? Difficile de répondre, en fait, avant dimanche la course, quoi. Clairement, ça va être compliqué de voir ça avant les premiers relais.
C'est clair.
Donc, Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette course, enfin sur cette course, sur ces qualifications plutôt des 500 miles, messieurs. Il ne reste qu'une seule séance d'essai. Elle aura lieu vendredi, une séance de 2 heures, de mémoire de 11h à 13h. Et la course qui aura lieu dimanche à partir de 14h en heure locale, donc ce qui fera du 20h en heure française, un départ assez tardif. On l'a vu quand même depuis le début de la semaine, des températures plus élevées que ce qu'il y a traditionnellement sur la seconde quinzaine du mois de mai, une humidité aussi plus importante. Au terme des 500 miles, ça pourrait avoir un rôle à jouer et ça pourrait peut-être mettre à mal la condition physique de certains pilotes, même s'ils sont tous normalement très bien préparés. On pourrait peut-être avoir des petites erreurs, messieurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Aloïs, peut-être, mais les conditions climatiques pourraient jouer.
J'ai l'impression qu'elle joue très régulièrement quelque chose pendant l'Indy 500, que ce soit le vent, que ce soit même la couverture de nuages. Ça influence la température sur la piste et du coup le grip des monoplaces. L'humidité, ça influence également les pilotes. Donc s'il fait lourd et chaud, c'est beaucoup plus difficile à tenir sur la distance pour l'organisme d'un pilote. Ça joue toujours. Donc, à voir quels seront les extrêmes dimanche soir. Et en espérant que notre ami la pluie ne fasse pas d'intervention impromptue.
A priori, ce n'est pas prévu.
Donc, c'est une bonne nouvelle.
Ne nous réjouissons pas trop vite non plus. Après, cela dit, on est en IndyCar. On n'est pas en NASCAR. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur la météo. Lilian, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Indianapolis avant qu'on clôture?
Comme tu l'as dit, je pense qu'avec ces températures et cette humidité qui sera plus élevée, je pense que c'est vraiment une course qui va jouer, je dirais, à l'expérience, clairement. Peut-être pas trop en donner dès le début, pas trop se montrer, et peut-être économiser ce qu'il faut aussi en énergie pour tout donner à la fin.
Écoute, rendez-vous dimanche pour voir...
Yes.
La plus grande course de la saison d'IndyCar, enfin. On n'a pas eu trop le choix que d'attendre. Donc, voilà. Rendez-vous dimanche. Allez, messieurs, on passe tout de suite au j'aime, j'aime pas et à l'info qui sert à rien. Parce que oui, cette semaine, j'ai une info qui sert à rien qui va vous faire plaisir. Enfin,
j'espère. Ça fait 2 jours qu'on l'attend en plus.
Si elle ne vous fait pas plaisir, ce sera la même chose. C'est ainsi. Allez Lilian, je t'écoute avec ton j'aime et ton j'aime pas.
J'ai commencé avec mon j'aime. Comme vous le saviez, j'étais du côté de la Bretagne, Geoffroy vous l'a dit, et j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 vols pour découvrir cette magnifique région.
Ouais, d'accord.
Et le j'aime pas, c'est que après les vols, j'étais pas trop bien parce que ça secouait un petit peu.
Il a vomi.
C'était pas loin, j'avoue, c'était pas loin.
C'était des vols en quoi? En avion? En deltaplane?
Alors, c'est ce que mon beau-père appelle un ULM, mais voilà, de forme, c'est un petit avion de place.
Ok.
Donc, on va à l'aérodrome de Morlaix et puis on s'envoie en l'air, sans mauvais jeu de mots.
Après, tu fais ce que tu veux dans un biplace avec ton beau-père. Aloïs.
Mon j'aime cette semaine, ce sera 50-50. Ce sera 50% IndyCar, 50% NASCAR. Parce que Chris Davison, samedi, était à Indianapolis pour les qualifications de l'Indy 500, où il a terminé 27e. Dernière Honda pour la petite information. Et le lendemain, dimanche, il était à Daytona pour l'inauguration du Daytona Road Course en NASCAR, en Cup. Donc, je trouve que c'est plutôt cool. Et ça vaut le coup de préciser qu'un pilote fasse un double header assez prestigieux au final.
Et il a hésité très longtemps. Il a hésité très longtemps à y aller parce que... C'est quand même sacrifier quelques séances, enfin une séance d'entraînement en vue de l'Indy 500 avec les réglages course.
C'est vrai, mais je suis déçu que la réalisation, tout du moins en NASCAR, n'en ait pas parlé.
C'était pourtant la même, enfin, le même diffuseur. En même temps, ils ont peut-être tellement été mauvais en NASCAR que c'est peut-être pour ça.
Ah, possible.
Oh.
Mon j'aime pas. Eh bien, c'est la fin des vacances, donc j'aime pas ça. Et allez, je rajouterai un autre j'aime pas en bis. C'est que la pluie a décidé de d'éviter le Daytona Super Speedway dimanche soir et ça m'a fait chier.
Daytona International Speedway.
International Speedway, autant pour moi.
Ouais, c'est. Mais en fait,
Surtout.
t'as tellement attendu la pluie que c'est pour ça que t'as été trop déçu.
Bah, on a eu une interruption pour un orage et la pluie, elle arrive en direction du Daytona et puis pouf, elle disparaît juste avant d'arriver sur le Speedway. Donc, un bon troll.
Surtout qu'on met quand même ce protocole en place pour éviter que les spectateurs se prennent la foudre sur la tronche.
Oui.
Et pendant l'interruption, donc on bâche les voitures, les pilotes vont se mettre à l'abri. C'est trop du cul de spectateurs, ils restent en tribune.
Tu sais, des fois qu'on leur vole leur place. Il y a tellement de monde.
Et puis c'est qu'elles sont petites les tribunes à Daytona en plus.
C'est
Ah,
ça.
depuis la rénovation, c'est clair.
C'est ça, ils ont des petites tribunes mais des gros sièges. Allez, messieurs, je commence avec mon j'aime. Bah, c'est que finalement, quels que soient les accidents qu'on a eu ce week-end en sport auto, en vélo et compagnie, que finalement tout le monde s'en sorte, je mets des guillemets, à peu près bien.
Ah, tu fais référence en MotoGP?
Bah, la MotoGP, le cyclisme sur
Ah, vous
le.
n'avez pas parlé vélo, là, les copains,
C'est
en mode
vrai.
j'aime pas.
Le Tour de Lombardie, il y en a quand même deux qui se font découper.
Ah ouais, Remco Evenepoel dans le ravin.
Ouais, et l'autre qui se fait shooter, c'était qui bref, par une voiture.
Ah oui, c'était Maximilian Schachmann par une vieille qui savait pas qu'il y avait une course.
Bah, c'était la putain avec son Opel, là.
Non! Ah putain, la fameuse!
Ouais.
Elle a changé de caisse, elle est
Non,
partie
c'était pas
d'Italie.
la putain, c'était la connasse, pardon.
La connasse, oui.
Ah
Voilà. Et bon, j'aime pas, j'en ai un tout petit peu parlé, c'est la réalisation absolument scandaleuse proposée par NBC et NBCSN, enfin par le groupe NBC, pour les courses de Daytona en Xfinity et en Cup ce week-end.
en Xfinity, c'était particulièrement dégueulasse.
En cup, oui, c'était moins flagrant.
Ouais, enfin, excuse-moi, en Cup, ils ont quand même fait un gros fuck à la NASCAR, ils se sont barrés à la fin. Ils n'ont même pas fait l'interview du vainqueur, quoi. Enfin.
Est-ce que, ouais, mais nous, parle sur le track pass, mais
Non, 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 mais même dans la vraie vie, hein.
dans la vraie vie.
Ils ont fait un gros fuck à la NASCAR et pas d'interview du vainqueur, quoi.
On n'a même pas vu le burn-out, tout, hop,
On marque
terminé, salut.
la tête, quoi. C'est ça. On n'en a rien à foutre, on se casse, on a plus important. Ouais, bah écoutez, programmez pas tout en même temps, quoi. Merde. Je trouve ça limite, enfin plus que limite. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Et l'info qui sert à rien, messieurs,
Ah.
ben on va encore parler. Ça tourne autour du monde de la NASCAR. Vous connaissez bien évidemment ce crew chief qui officie sur NBC, justement.
Steve le
Donc
tarte.
on parle de Steve
le
Letarte.
star. Et ben, vous savez qu'il a une petite fille, enfin une fille, sa plus jeune. Elle est rentrée à l'école cette semaine.
Ok.
Voilà. Bon, je pense que
Cool.
dans 15 jours, elle sera de retour à la maison à cause de l'épidémie, mais ça, c'est un autre débat.
Let's go racing, boys!
Allez, la NASCAR, Lilian, on en a déjà un tout petit peu parlé. C'était du côté de Daytona en Floride. Et pour la première fois, ce n'était pas complètement sur l'ovale, c'était aussi sur le circuit routier. Première course routière en Cup à Daytona, enfin même en Xfinity et même en Truck. On en attendait monts et merveilles de cette course. Et hormis la pluie, que certains appelaient de leur vœu, on n'a pas été déçus, Lilian.
Bah déjà, je pense que les gens s'attendaient à quand même pas mal de, comment dire, Je veux dire, pas mal de spectacles en piste dans le sens où la course de Xfinity avait été très agitée la veille, notamment à cause des conditions météo. Bon, au final, la course a quand même été un peu plus calme que ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que bah, peu importe la piste routière, c'est toujours le même qui gagne, en fait.
Trois victoires de suite pour Chase Elliott sur les circuits routiers. C'était imposé à Watkins Glen l'année dernière, sur le circuit routier de Charlotte pendant les playoffs. Et il remet ça là sur le circuit routier de Daytona, sachant qu'il n'y a pas eu de course routière à Sonoma cette année à cause de l'épidémie.
Mais clairement, Chase Elliott, il est ces temps-ci clairement au-dessus. C'est, même en ayant eu un restart en fin de course, la concurrence ne peut rien faire face à Chase Elliott.
Ouais, Denny Hamlin a essayé sur les trois derniers tours. On sent qu'il a tout donné. Mais il était au taquet, il n'en pouvait plus. Mais dans un moment, il avait quoi? Il avait 10-12 secondes d'avance, Chase Elliott. Il était
ouais, voilà.
Et
la Hendrick, en général, a bien performé sur cette course.
Bah, tu m'étonnes, 1, 4, 8, 12.
C'est presque exceptionnel pour la Hendrick.
Et 12, c'est Alex Bowman, et c'était très très mal embarqué pendant la quasi-totalité de la course. Hein.
Ouais, c'est clair.
C'est ça, je crois qu'il est empêtré dans un incident avec Joey Logano en fin de course. Hein.
Mais en plus.
Donc voilà, j'espère que chez Hendrick, on a quand même fait un loto. Fallait peut-être jouer les numéros de la voiture et les places à l'arrivée. Quoi. Avec un peu de chance, ça rapportait des sous. C'est vrai qu'on a tellement tapé sur la Hendrick que là, les voir bien placés, c'est pas mal aussi. Bon, Jimmy Johnson, il a beau changer de couleur de déco, ça gagne toujours pas.
Ah, je pense que même s'il fait quatrième, pas certain qu'il puisse aller chercher. Il avait la voiture pour chercher la première place.
Non, il l'avait pas. Et honnêtement, je pense que ce week-end, ce sont ses deux dernières chances.
Ah, ça risque d'être compliqué par la suite, puisque ce week-end, on a Double Header à Dover et ensuite Daytona, donc cette fois-ci l'Oval.
Oui, l'Oval. Tout pourra t'arriver, clairement.
Oui, tu pourras arriver, oui. Mais justement, je pense que tout va arriver, à Daytona.
Mais d'ailleurs, je crois que Jimmy Johnson n'a jamais gagné le Daytona 400.
Si, l'année où il fait le sweep en 2006, donc il doit gagner en 2016. Mais des pas, hein, surtout.
Il a fait le sweep, attends, je vais chercher ça, vas-y, je vais chercher.
Je sais plus si c'est 2016 ou 2013 qu'il gagne le second Daytona 500. Mais cette année-là, il fait le sweep. Donc, si, il a déjà gagné la course estivale de Daytona. Mais là, il ne fait que quatrième. Denny Hamlin a fait deuxième. Et Aloïs Martin Truex Jr., troisième pour la cinquième course de suite.
Oui, je voulais en parler. Incroyable.
Martin
prochaine, c'est à la troisième place. C'est assez incongru. Je pense pas que j'ai déjà vu ça. Kansas, Loudon, Double Header à Michigan et Daytona Road Course. Donc, à chaque fois, des pistes très différentes l'une de l'autre et c'est le même résultat. Troisième.
C'était bien 2013, Johnson.
J'aimerais dire aussi, à chaque fois,
oui.
C'est pas très clinquant. C'est pas super.
Il est
assez invisible à chaque fois.
Là, quand même, sur le routier de Daytona, on l'a vu. Il a mené. Il y a eu des passes d'armes au début avec Kyle Busch, avec Hamlin.
C'est vrai. Après,
Chase Elliott était, on va dire, un cran au-dessus des deux pilotes Gibbs. Mais il a été là. C'est pas une troisième place en mode sauvetage à la Kenseth ou à Johnson de la grande époque. C'est une troisième place parce qu'il a la deuxième ou troisième meilleure voiture. C'est tout sauf illogique.
Oui, c'est tout sauf illogique. On est d'accord. Mais encore une fois, il n'est pas le premier pilote n'importe quoi, le premier pilote Gibbs, puisque Denny Hamlin était encore plus fort que lui.
Ouais, malgré des ennuis dans les stands.
Pour changer.
Oui. Ah non, mais là, celui-ci, il était beau quand même. Hein.
Ouais, c'est clair.
Le petit. Enfin, le quoi le tuyau qui se repose sous le splitter, ça aurait pu coûter beaucoup plus cher.
Ça aurait pu coûter beaucoup plus cher et au final, ça n'a pas changé sur la place finale à l'arrivée.
Voilà. Alors, donc,
le mec qui nous a fait une ambrose aussi, ça faudrait qu'on en parle vite fait.
Ah oui, j'ai oublié déjà. Oui.
J'ai vu Aloïs, t'avais bondi dimanche ça. Hein.
Bah, incroyable.
Ouais.
Bah non, le plus incroyable, c'est pas qu'il nous fasse une ambrose sur du ce qui est déjà quand même assez fort, c'est que il a été autorisé à retrouver une place en troisième ligne alors que quasiment tout le peloton l'avait dépassé. C'est surtout ça qui m'embête.
Ouais, c'est ça. Alors qu'à Ambrose, on avait bien interdit. Hein.
Ouais, on lui a dit non, tu restes là où t'es. Tant pis pour toi.
C'est ça. Mais ce qui aurait été logique aussi pour Martin Truex Jr.
Oui, c'est clair.
Mais bon. Il y en a un qui est en train de faire du bruit avec son micro. C'est assez dérangeant, je pense. Mais voilà. Enfin, après, Truex reprend sa place. Je sais pas pourquoi. Petit passe-droit de la NASCAR, va-t-on dire. Mais t'es pas capable de laisser ta voiture alimentée, bah t'assumes, hein.
Tu veux faire du plat. C'était sur du plat en plus, hein. Et c'est quelque chose qu'ils font 40 fois par course.
Ouais, alors qu'Ambrose, lui, il avait été suffisamment intelligent pour le faire remonter quand même.
Pour se faire choper bien sous les caméras.
Dans la montée à Sonoma. Donc bon, voilà. Mais du coup, il est revenu en piste. Mais par contre, à souligner, hein, sa pénalité en fin de second segment, enfin, deuxième segment, pardon, quand il prend un excès de vitesse dans les stands, il prend une pénalité et il termine quand même dans le top 10. Je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Il termine septième.
Ah, c'est surtout que cette pénalité est arrivée au pire moment puisque avec son arrêt au stand à deux tours de la fin du segment, quand il sort. La ligne des stands est fermée. Donc il est obligé d'attendre le restart suivant pour faire
non.
Sa.
Non, dans ce cas-là, il y a drapeau jaune et t'es mis en fond de peloton.
Ok, bon.
Et
il perd quand même beaucoup plus de place que ce qu'il aurait perdu la ligne des stands était ouverte.
Ah oui, et du coup, comme il était pénalisé, ses points de fin de segment n'ont pas compté.
Donc, je pense qu'il n'avait pas forcément besoin des points de fin de segment. Hein.
Bah oui, mais du coup, ça a profité à d'autres. C'est notamment à Chase Elliott qui a récupéré les points de Martin Truex Jr. et ainsi de suite. Le huitième, c'était Kevin Harvick au lieu d'être neuvième. Kurt Busch au lieu d'être dixième a fait neuf et c'est Joey Gaze avec sa numéro 32 très politique qui marque un point.
Mais c'est la Gibbs qu'on adore. Celle qui foire dans les stands et qui se fait remarquer devant tout le monde.
Ah, et là, en plus, si tu veux, il y a eu Hamlin, il y a eu Truex. Eric Jones, on l'a assez fantomatique, il fait 11e. Mais Eric Jones, je pense qu'il a déjà plus la tête à la Gibbs. Je m'avance peut-être un petit peu, mais voilà. Et Kyle Busch. On en dira deux mots après de Kyle Busch. On va terminer le top 10. Il y a tellement de choses à dire sur les gens du top 10 que voilà. Alors, on s'est arrêté au quatrième, Johnson. Le cinquième, Chris Buescher, Aloïs. Premier top 10 de l'histoire de Chris Buescher sur un circuit routier.
Ma réaction initiale quand j'ai vu l'arrivée et que Chris Buescher est cinquième, c'était what the fuck.
On l'a pas vu.
On l'a pas vu de la course et Chris Buescher n'est certainement pas réputé pour être un pilote à l'aise sur les circuits routiers. Bien au contraire, il est connu pour être rapide sur les super speedways et les ovales très rapides. Là, à Daytona, je pense que c'était une surprise pour absolument tout le monde et peut-être pour lui-même de se retrouver en cinquième position.
Surtout pour lui.
Je pense.
Mais à l'arrière, tant mieux pour le pilote de la Rush. Même si après je suis pas sûr que ça se traduise correctement au classement, je suis en train de.
Bah, Chris Buescher est 22e.
Je suis en train de vérifier que ça, il est 22e avec 403 points. Le 14e c'est William Byron, 177. Non, il y a 160
points. Il a 174 points de retard.
14, ouais. Laisse tomber, c'est fini l'histoire. Donc il lui faudra une victoire dans la semaine prochaine à Daytona. Parce que je le vois pas gagner à Dover.
Deux semaines.
Ah non, la semaine prochaine. Ce week-end, c'est Dover et c'est le week-end prochain, Daytona.
Autant pour moi, exact.
C'est pas grave, les gars. Toi, t'es tombé dans une faille spatio-temporelle en partant en Bretagne.
Il est toujours secoué par l'ULM.
Ouais, c'est ça. Ouais.
J'ai encore la gerbe, ouais.
À mon avis, il s'est pas posé correctement. le sixième, Clint Bowyer. Bon, habitué des belles perfs sur circuit routier, c'est tout sauf surprenant.
Et c'est un bon résultat qui va quand même lui faire du bien, je pense, pour sécuriser sa place au point.
Oui, clairement. Ça...
C'est quand même un résultat qui tombe à point nommé pour Clint Bowyer.
Et en puis, c'est un résultat sans vague. dans le sens où il a pas eu de soucis pour une fois, que ce soit en piste ou que ce soit dans les stands. Donc, à souligner.
Et puis, quatrième et deuxième des segments, il fait 47 points, c'est 6 de plus que Johnson, en terminant deux places derrière, quoi.
Bah, c'est le troisième meilleur total de la course, puisque Klingbauer a 47. Non, c'est le deuxième meilleur.
Deuxième.
Daniel Min est 45 et Chase Elliott, avec la victoire, termine avec 54 points.
C'est ça. Donc, bien joué Klingbauer et encore bien joué Casgrala dans la numéro 3 en remplacement d'Austin Dillon, malade du Covid. Enfin, malade du Covid, positif en tout cas. Casgrala qui fait septième.
Ça, fallait le trouver.
C'est une surprise majuscule quand même.
Ah, il fallait le trouver, je suis d'accord. Ceci dit, quand on suit la course de très près, il était quand même dans le top 10 une grande partie.
Ah oui, c'est pas un résultat volé, c'est clair.
Il n'y a rien d'illogique. Il part de l'arrière du peloton parce qu'il y a changement de pilote, mais il n'y a rien d'illogique vu la performance qu'il sort. Mais c'est une performance majuscule pour un pilote qui débute en Cup, qui plus est sur un routier à Daytona et sans essai, quoi. Enfin, quand tu mets tout bout à bout.
Bah, c'était ses débuts en Cup, tout simplement.
Oui, c'était ses débuts en Cup, enfin, sur routier à Daytona, enfin, sans essai. C'est quand même pas
mal. Grala, c'est en truck qui marque des points, c'est même pas en Xfinity.
Ben, je suis en train de regarder.
De mémoire, c'est en truck, oui.
Ben, en truck, il n'a pas de résultat en 2020.
Alors, c'est peut-être en Xfinity. Je sais qu'il a fait Mid-Ohio, Road America, là, récemment. Il a fait un top 5 à Road America.
Je vois qu'il a fait une saison complète en truck series en 2017. En 2018, c'était en Xfinity qu'il a fait une saison complète avec deux top 5 et 5 top 10.
Ouais, là, il a des points marqués en X.
Bah, c'est 5 courses au total. 5 courses en 2019 et 2 en 2020.
Ouais, c'est ça, il a que des points marqués en Xfinity.
Ouais, donc c'était vraiment un calendrier partiel. Et là, en fait, la RCR n'avait pas le choix, puisque le choix principal aurait été AJ Allmendinger. Mais comme Allmendinger avait roulé en Xfinity et que la NASCAR interdisait à tout pilote de faire plus d'une course à Daytona, Allmendinger n'a pas pu rouler.
Mais je crois avoir entendu que c'était le seul pilote présent à Daytona avec sa combinaison et son casque qui pouvait prendre part à cette course.
Ben oui, vu que tous les autres avaient roulé dans les autres séries. Donc sinon, il fallait aller chercher quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être assez compliqué.
Bah, ça peut être peut-être un boost pour sa carrière personnelle.
Ouais. Huitième, William Byron, qui termine 4 places derrière Jimmy Johnson, mais qui ne met qu'un point de moins. Donc, belle opération, dans l'optique d'une qualification au point. Il est toujours le détenteur de la 16e et dernière place qualificative. 9e, Joey Logano. Bon, bah, y a pas grand-chose à dire sur Logano.
Bah, il a quand même... il a obtenu cette 9e place au forceps en fin de course avec des pneus très anciens. Il est tombé de place en place et au final, ça reste un top 10 quand même.
Et par contre, la belle surprise, encore, la 10e place de Michael McDowell.
Okay. Il a répondu présent. Il était attendu sur circuit routier et voilà, il va chercher un top 10. Mais bon, après, c'est pas pour autant qu'il se qualifiera pour les playoffs.
Non, mais il a réalisé une course complète, à mon sens. Et on sait qu'il est à l'aise à Daytona, enfin surtout sur l'ovale. Maintenant, on sait qu'il est également à l'aise sur sur le circuit routier de Daytona. Donc, est-ce que c'est un bon signe pour la dernière course de saison régulière et potentiellement une victoire pour se qualifier en playoff? Qui sait?
Ouais, effectivement. Petit mot quand même, messieurs, on en a encore parlé sur les 4 premiers au départ qui s'étaient mis d'accord au moment des hymnes, enfin juste avant les hymnes, pour pas faire les idiots au premier virage et que tout se passe bien, quoi. En gros, ils ont tous les 4 discuté en disant on freine à cet endroit-là et tout ira bien. Et finalement, le départ s'était bien passé. Ils n'avaient pas trop envie de passer pour des peintres après ce qui s'était passé en Xfinity la veille.
C'était quoi, l'avant-dernier restart?
Oui, l'avant-dernière restart où finalement...
Ils finissent tous hors trajectoire dans la partie goudronnée en dehors de la trajectoire. C'était assez magnifique.
Mais même le départ avait été catastrophique pour... c'était qui devant? C'était Cindric et je ne sais plus qui. Enfin, ils se sont manqués complètement au départ, dans le premier virage.
Mais De toute façon, la ligne de course en NASCAR, c'est quelque chose qui est très propre. Ce que j'ai toujours dit, il ne faudrait pas mettre un officiel de la FIA sur une course NASCAR. Je pense que le mec, il mettrait des pénalités alors qu'il n'y a pas besoin. Hein. Tant que tu es à l'intérieur du circuit, tu es sur la ligne de course. Hein. donc voilà. Si, Kevin Harvick, en fait, je pense qu'il avait tellement aimé la règle de la cone rule au Michigan, bah, qu'il a joué le rôle du cone pendant la course.
Ça en est suivi un joli tweet de son crew chief.
Ah, tu m'étonnes.
Bah, 17e, Kevin Harvick qui partait en première place, bah, c'est pas ouf du tout. Hein.
Mais il a jamais eu la voiture pour faire quoi que ce soit de bien.
Enfin, et puis, je pense qu'il avait pas forcément l'envie non plus.
Ouais, puis il s'est fait un peu balancer par Christopher Bell à un moment.
Oui.
Je pense qu'il a dit, bon, je vais passer cette course tranquille, on se retrouve la semaine prochaine pour revenir aux affaires, mais là, je vais vous laisser vous prendre la tête pour la victoire.
C'est ça.
Il a laissé un peu de répit à la Hendrick cette semaine.
Oui, et puis à la Gibbs surtout, enfin surtout à Amine, hein, parce que c'est, on sent bien que c'est la lutte entre les, comment, entre les deux pour le, pour la première place, enfin même pour la place, on va dire, de pilote le plus dominateur de l'année, quoi. Ça va se jouer entre Hamlin et Harvick.
Et tu fais référence à Denny Hamlin, mais sur les quatre dernières courses, Denny Hamlin fait quand même 3 secondes place de suite. Du coup, ça veut dire qu'il a terminé derrière Harvick sur deux de ses courses.
Course de Michigan, ouais.
Et il a terminé devant, 3 fois devant Martin Truex Jr. en fait. À Loudon, Michigan 2 et Daytona cette semaine, il a terminé 2e et Martin Truex Jr. 3e. C'est ouais. assez marrant pour une même écurie.
C'est vrai. Bon, on en parle de sneakers.
Ah,
encore une fois, on va parler de Kyle Busch.
Monsieur, ouais. Je fais la gueule en interview.
Non, franchement, c'est encore une fois, malheureusement, hein, on tape sur Kyle Busch. C'est quand même très, très drôle ce qui lui arrive. C'est pas de sa faute.
Mais oui, surtout ça, le truc, c'est qu'il s'est vraiment, quasiment à chaque fois, c'est pas de sa faute. C'est, il a une mauvaise étoile, il a un chat noir qui lui court après de circuit en circuit, c'est hallucinant.
Le premier tour à la nouvelle chicane, il freine au panneau trop tard pour être sûr que vraiment, bah, quand c'est trop tard, ça passe plus.
Regardez-moi, c'est là où il ne faut pas freiner.
Le tour d'après, il refait la même et je pense qu'il refait un plat exactement au même endroit sur le pneu. Il est obligé de s'arrêter au 5e tour tellement le pneu est à la corde et menace d'exploser. Il s'arrête de nouveau en fin de segment. Et ensuite, est-ce qu'il a des problèmes de frein au moment de rentrer au stand?
Bah, il fait un tête-à-queue sur la rentrée du, enfin la sortie du circuit à l'intérieur pour arriver dans le tournoi de NASCAR.
Oui, c'est ça, la sortie de l'infield pour reprendre l'ovale. Pour situer, ça devait être le virage 6 ou 7. Oui, il fait un tête-à-queue à cet endroit-là. Et après, il a un problème de frein. Ce qui met fin à sa course.
Il n'y a pas un pneu qui a explosé également ?
Puis il casse pas un rotor ou quelque chose comme ça qui le contraint à rentrer dans les garages ?
À l'arrière, je crois.
À l'arrière, ouais.
Mais c'est une casse au niveau des freins. C'est le brake rotor, un truc dans le genre qui casse. Mais c'est vraiment un truc des freins qui pète.
Mais c'est incroyable la malchance que Kyle Busch connaît depuis quelques semaines.
Ouais, il répare, il reprend la piste et re-accident, je crois qu'il y a une crevaison. Et... Alors ouais, ça va suffire, c'est ce que j'en discutais hier, ça va suffire pour les playoffs, parce que Kyle Busch est 10e, donc c'est juste pas possible qu'il y en ait 4 qui gagnent, 3 qui gagnent et que lui sorte des playoffs, c'est juste improbable, mais niveau confiance, il est pas là, et malheureusement, je pense qu'en playoffs, il est parti pour nous faire de la figuration.
Ah bah, sortir à l'issue du premier tour, clairement.
C'est de plus en plus sombre.
C'est dommage pour Kyle Busch, mais après j'espère me tromper et j'espère le voir plus haut parce que ça reste Kyle Busch, ça reste la Gibbs et ça reste capable de faire d'excellents résultats. Mais quand on voit les bas bien bas qu'il est capable de nous faire cette année, Kyle Busch, je suis pas serein à l'amorce des playoffs. Hein. Même s'il venait à gagner Dover 2 dimanche.
Surtout quand tu vois le programme du premier tour des playoffs, qui est quand même bien corsé.
De
Darlington.
Richmond, hein.
T'as peut-être Bristol qui peut le sauver s'il est dans un grand soir.
Ah, mais quand tu reviens, Darlington, ça peut le faire. Bristol, c'est une piste qui lui convient. Richmond, c'est une piste qui lui convient aussi, quoi. Donc techniquement, ça peut le faire.
Est-ce que ce serait pas le coup de boost nécessaire pour lui remonter la confiance avec une, si ce n'est deux victoires, si toutes les planètes s'alignent correctement? Ça peut, on en parlait et on en parle toujours depuis quelques semaines, mais Tony Stewart, l'année de son dernier titre, c'est ce qui s'était passé. Donc, il y a un précédent, c'est pas impossible. Et on sait que Kyle Busch fonctionne énormément à la confiance et à l'instinct. Donc, s'il peut enchaîner un début de playoff convaincant avec à minima une victoire, on ne maîtrise plus le reste.
On maîtrise plus le reste. Mais
comme tu dis, s'il continue à être poissard comme ça, c'est pas la peine.
C'est ça. Et
parce que son niveau, on le connaît, donc.
Ouais. Et il souffre aussi de l'absence d'essai. C'est le seul, mais il en souffre. Il a besoin du temps de piste, lui.
Il le dit, ouais.
Mais est-ce qu'il a vraiment besoin du temps de ce temps sur la piste, ou alors c'est ce qu'il se dit dans sa tête et c'est ce qu'il le mine au final pour pendant les courses, puisqu'il part avec un moral. En berne avec des pensées négatives, est-ce que ce serait pas ça finalement qui lui coûte plus que le temps effectif en piste?
Après, il y a peut-être un peu de méthode Coué, mais quand tu auras bien Kyle Busch, quand est-ce qu'il gagne, quand il roule en Cup, en Truck et en Xfinity sur la même piste, quoi. Alors, il gagne pas forcément les trois courses sur le même week-end, mais plus il roule, plus il gagne.
Il a toujours marché comme ça, c'est vrai.
Il a souvent marché comme ça. Enfin, après, on peut se tromper, mais je pense honnêtement que ce que dit Kyle Busch, pour une fois, c'est vrai, l'absence d'essai, ça lui coûte, ça lui pèse énormément. Mais après, voilà, tout le monde est dans le même cas. Il y en a 9 qui sont devant lui au classement général, quoi. Donc, il y en a 9 qui s'adaptent mieux que lui. Mais, cela dit, il fait pas non plus une mauvaise saison. Enfin, si, il a gagné qu'un seul segment, il a qu'un seul point de playoff. Il fait pas une mauvaise saison dans l'ensemble, mais quand tu t'appelles Kyle Busch, c'est une mauvaise saison. Et un peu à l'image de
champion en titre.
Ouais, ça, t'es champion en titre, t'es un petit peu à l'image d'un Hamlin à un moment. Il a des hauts qui sont plutôt hauts, mais qui sont pas des victoires. Et il a des bas, mais ils sont tellement bas que t'as l'impression qu'ils continuent de creuser, quoi. Et malheureusement, bah, ça explique en grande partie sa 10e place au classement général à 287 points de Kevin Harvick en 23 courses. Ça fait 13-14 points d'écart, donc ça fait 13-14 places d'écart à chaque course.
Bah, la position finale en course de Kyle Busch est de 15,1, celle de Kevin Harvick 6,4. Donc tu as quasiment 10 places de différence.
T'as 10 places et les points de bonus de segment. Voilà. Tu les as là. Tu cherches pas plus loin. Donc, bon. Ben, après, Kyle Busch, il va s'en remettre. On va peut-être pas faire toute la fin d'émission sur Kyle Busch. Mais c'est vrai que ça fait une année très très compliquée. Toujours pas de victoire. Sa dernière victoire, et sa seule victoire en plus d'un an, c'est la finale à Homestead l'année dernière. La course qu'il fallait gagner. Mais depuis, rideau, plus rien.
Mais il faudra analyser la saison de Kyle Busch dans sa totalité dans 5 semaines, à la fin du premier segment des playoffs.
Bah écoute, je te laisse le noter, je te laisse nous faire un topo en 328 pages, et comme ça tu nous en reparles.
Conclusion et introduction incluses ?
Oui, ça, sinon on peut encore faire plus d'une heure.
Très bien, c'est noté, je note, c'est écrit.
Austin Dillon, pareil, il n'était pas sur la course, il a gagné au Texas, donc il s'en fiche. Il faut que son équipe fasse la demande pour qu'il soit éligible pour les playoffs.
Oh, je pense que pour la raison de son absence, la NASCAR va accepter. Et puis, Austin Dillon et c'est la numéro 3.
Oui, mais il faut quand même que la RCR fasse la démarche de demander le passe-droit. Comme toujours.
Dans on ne sait toujours pas à l'heure où on enregistre l'émission s'il sera là pour le double header de Dover.
Bah, pour l'instant, il est confirmé. Enfin, sur la liste des engagés qui est publiée sur le site, Il est confirmé, enfin, il est inscrit dans la numéro 3 parce que c'est le pilote titulaire de la saison. Maintenant, on n'est pas à l'abri qu'il soit encore positif et qu'il ne puisse pas se rendre dans le Delaware et que ça soit sûrement AJ Allmendinger qui prenne le volant samedi et dimanche. Ou peut-être samedi ou dimanche, je ne sais pas. Mais sachant que s'il y a changement de pilote entre les deux courses, Austin Dillon, il partira dernier dimanche. Messieurs, un petit mot sur le classement. On a dit que c'était William Byron qui dominait. Enfin, qui dominait.
Qui dominait.
Oui, qui dominait la lutte pour la dernière place.
Qualificative au playoff.
Qualificatif pour les playoffs avec 577 points. 25 points devant Jimmy Johnson. Eric Jones est aussi dans la lutte pour le titre. Tyler Reddick également. Enfin, dans la lutte pour le titre, dans la lutte pour les playoffs. Austin Dillon n'est pas concerné. Christopher Bell au point va falloir oublier et au-delà de Christopher Bell c'est mort au point va falloir y aller par une victoire.
Justement, qui vous voyez gagner d'ici la fin de la saison régulière pour aller se qualifier pour les playoffs?
Sur les deux courses de Dover.
Bah ouais, ou tu peux, on peut inclure Daytona aussi, sur les
Ouais,
trois.
on peut
Oh
Daytona,
bah
ouais.
attends, me lance pas sur Daytona parce que là j'en vois au moins 10 capables de gagner.
Je pense que Daytona, ça peut être un gros bazar.
Ah, mais je regarde le classement. Je vois des pilotes qui ne peuvent pas se qualifier au point et qui sont un tant soit peu adroit à Daytona. Je vois.
7
Attends,
Ricky.
deux petites secondes. Je vais faire dans l'ordre du plus bas. Je vois par exemple Ryan Newman. Je vois Ricky Stenhouse Jr.
Non,
Je
Matt
vois
Kenseth.
Michael McDowell. Je vois Chris Buescher. Je vois Bubba Wallace.
Bah tu mets tout le monde quoi.
Non
Hey,
mais
ils sont tous bons sur au Daytona sur l'ovale. Ils l'ont prouvé au fil des années et des éditions. Ils sont tous relativement agressifs. Ils vont tous se battre pour une place en playoff.
Enfin, Ryan Newman, il a quand même plus d'envolées que de victoires à Daytona.
Ouais, mais ça reste un excellent pilote sur Super Speed, ouais, quoi qu'il en
Ça.
soit. Et puis il est chez la Roush.
Ouais, par contre, tu mets Newman, mais tu mets pas Kenseth. Tu m'expliques?
Ah
Vas-y, je veux juste une explication. Parce que
non,
Kenseth,
parce que.
il a 42 et que Larson n'est plus là, quoi, c'est ça?
Non, non, c'est juste que Kenseth, j'y crois pas. J'ai pas le sixième sens pour ma tête.
Parce que Kenseth fut un temps sur les ovales de Daytona Talladega, c'est un sacré client.
Bah, allez, on rajoute Matt Kenseth dans le panier si vous voulez. Du coup, si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, allez, on va dire 6 pilotes qui veulent et qui peuvent se battre pour une victoire à Daytona à 200 miles à l'heure, en paquet, pendant
C'est
150 tours.
en plus des 34 autres, hein.
En plus des 34 autres, ça peut partir en couille très rapidement.
Ah, il va y avoir pas mal d'accidents en fin de course, c'est clair.
Oui. Il va falloir peut-être rester planqué jusqu'au 159e tour.
Puis après, j'ai même pas rajouté Christopher Bell, mais il a quand même du matériel Gibbs, qui est loin d'être mauvais sur Super Speedway.
Ouais.
On peut rajouter Tyler Reddick, il n'est pas officiellement qualifié. La recherche de Race Racing est excellente sur Super Speedway également.
Austin Dillon, Tyler Reddick. Belle association, quoi.
Austin Dillon.
Bah oui, Austin Dillon qui pousse Tyler Reddick sur la Victory Lane. Ça pourrait être beau.
Ça pourrait être beau. Ça pourrait être beau. Ça pourrait être totalement
Mais
faisable.
Austin Dillon ne poussera jamais Tyler Reddick pour aller gagner. Il ira gagner lui-même.
Ah, pas certain.
Oui, on verra. Mais bon, enfin, c'est totalement du domaine du possible. Après, en fonction de comment tu te retrouves dans le dernier tour, t'as plus trop le choix. Hein. Donc on verra bien. On verra à Daytona. On verra Dover. Ça répond quand même pas à la question de qui vous voyez gagner à Dover dans ceux qui n'ont pas encore gagné.
Bah,
Qu'est-ce que vous
c'est.
en voyez?
Je dirais pourquoi pas Harry Calmirola. Ça me
Ah,
surprendrait
depuis le
pas.
temps qu'il tourne autour, c'est clair.
Ouais. Kurt Busch n'a pas encore gagné. Il fait une belle saison. Il est pas mauvais à Dover également.
Ouais, mais ça change rien.
Mais ça change rien. Honnêtement, Dover, je ne vois pas. Je pense pas que ça va secouer le cocotier, comme on dit par chez
Ouais,
nous.
je suis d'accord.
J'ai du mal à voir. Un tel scénario, je pense que ça va confirmer avec les grosses écuries Penske, Gibbs, possiblement la Hendrick s'ils ont trouvé le bon déclic.
Ah, Elliott est souvent pas mauvais à Dover.
C'est pour ça que j'inclus la Hendrick, parce que je sais que Elliott est très bon et Byron a montré de belles choses également ces dernières années. Donc c'est pas impossible, mais j'ai du mal à voir que.
T'imagines si Byron gagne, parce que ça change rien, mais pour Johnson.
Ça change beaucoup.
Et pour Johnson, ça rajoute 20 points, quoi.
Et puis Matt Di Benedetto est pas mauvais à Dover non plus.
Oui.
Clint Bowyer, c'est pas un peintre également. Mm. Donc, et si Jimmy Johnson remportait une victoire à Dover?
Alors là,
ouais.
Vu ce qu'il a montré, si tu veux, c'est comme miser Kyle Busch. Hein. Enfin, Kyle Busch, si sur la seconde course de Dover, c'est jouable, parce que la première, ça y aura fait son galop d'entraînement, à condition qu'il fasse plus que 18 tours. Voilà.
Je suis en train de regarder. Alors, Jimmy Johnson, en 36 courses, c'est quand même 11 victoires à Dover. C'est pas dégueulasse. Mais la dernière victoire remonte à 2017, sur la première course de la saison. Et avant, il faut aller chercher 2015.
Mais en fait, 2017, c'est sa dernière victoire tout court.
En plus.
Donc voilà. Et on ne l'a pas encore dit, mais avec Dover ce week-end, la NASCAR aura complètement rattrapé son retard pour la Cup. Et pire Capo Cono, messieurs, on a 5 courses de NASCAR ce week-end à Dover.
Oh là là, attention, indigestion.
Une course de truck, 2 courses d'Xfinity, 2 courses de Cup, un café, l'addition.
Et s'il y a un peu de pluie?
Et la pluie dans tout ça?
Attends, j'ai pas regardé pour l'instant, je suis sur les horaires. s'il y a de la pluie.
Je regarde ça.
Bon courage, vas-y, regarde la pluie, moi, j'essaie de te donner les horaires.
J'aurais pu nous mettre un peu d'arca aussi, hein, histoire de que ce soit complet.
Histoire de faire chier le monde.
Vous voulez vous marrer?
Ils annoncent de la flotte.
Alors, ils annoncent des orages samedi et dimanche.
Oh, punaise.
Encore des orages, putain.
Et Dover, il n'y a pas de lumière, hein, donc pas en nocturne, c'est pas possible.
Et puis Dover, c'est pas très loin de la mer, donc les orages arrivent très rapidement.
Ouais, enfin, Daytona aussi, c'est pas loin de la mer. Hein. Quand t'es sur la côte est, c'est quand même très proche de la mer.
Et puis pour Dover, dimanche, avec NBC qui diffuse la NASCAR et l'Indy 500, ça va être compliqué.
Oui. La NASCAR, la course, alors samedi, elle est à 16h. Dimanche, elle est également à 16h. L'heure du drapeau vert, c'est pas encore donné par la NASCAR, mais bon, voilà, ce sera au-delà de 16h, donc au-delà de 22h en France. Ouais.
Ah, c'est après l'Indy 500, autant pour moi.
Non, c'est à cheval, parce que l'Indy 500 débute à 14h30 de tête.
T'avais dit 20h, je crois, en France, ouais.
Oui, 20h, 20h30. J'essaie de retrouver les infos de la diffusion de l'Indy 500 en même temps que je vous parle, mais oui, enfin. Indigestion de course ce week-end. Je suis même en train de regarder la truck, elle est quand?
Je crois pas, elle est pas en levée de rideau de la Cup le dimanche soir?
Non, la truck, elle est vendredi.
Ah,
non.
Ça va.
Ah, quand même, attends, c'est déjà assez compliqué.
Elle est vendredi à 17h et la Xfinity, elle est.
Elle doit être comme
ça. Elle a 8h30. Et à 13h, midi et demi le samedi, 13h le dimanche.
Ouais, du coup, à 13h le dimanche, ça fait du 20h en France?
Non, ça fait du 19h en France.
19h en France, donc... Et la Cup, tu as dit, hein?
N'écoute pas. Ouais, la Cup, elle est à 22h.
Ouais, du coup, alors, en même temps que l'Indy 500, on est d'accord.
Ouais, l'Indy 500 sera presque fini, en principe.
C'est ça, l'Indy 500 sera presque fini. J'essaie de vous retrouver en même temps que je vous parle les horaires de l'Indy 500. Forcément, je suis allé sur le site média de l'IndyCar, mais ils n'y sont pas. Et je me suis rappelé que je les avais postés. Donc, c'est que je les ai trouvés quand même quelque part ailleurs que sur le média de l'IndyCar, ce qui en soi est assez beau. Donc, voilà, j'ai l'info qui s'affiche en même temps que je vous parle. C'est du direct enregistré. 14h30, le drapeau vert, donc ça, 20h30 en France. Donc, enfin, 1h30 d'Indy 500, on sera tout juste à la moitié. Donc, va falloir 2 écrans, messieurs, dimanche.
Ça arrive,
effectivement.
Mais comme il va pleuvoir à Dover, on sera tranquille.
Ouais, on sera tranquille. Tu m'étonnes.
On aura la course lundi, et puis c'est très bien.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que Lilian, tu suis la NASCAR, Aloïs, tu suis la météo, et je vais suivre l'Indy 500.
Merci.
Comme ça, on sera bien. On sera
oh, les tâches ingrates.
Bon, attends, c'est lui qui suit la météo, les boules, quoi.
Bah, bah, moi, merci. Je vais regarder les fans en train de se faire griller par les éclairs.
Bah, mais c'est bien, tu vas avoir une course de hors-bord. Au moins, tu vas avoir quelque chose.
Ouais, si on veut.
Bon, messieurs, ce que je vous propose, c'est d'arrêter là parce qu'on a encore débordé. Comme d'hab, une belle inondation. Rendez-vous ce week-end pour l'orgie de course. Préparez-vous bien. Même du côté des auditeurs et des auditrices, je pense qu'il va falloir la dose de nourriture parce que ben, c'est quand même un week-end qui va commencer vendredi soir et qui va s'arrêter lundi matin
en principe, ouais.
Embauché. Donc voilà, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce week-end pour cette orgie de course et la semaine prochaine pour une orgie de débrief. Hein, Aloïs, je pense qu'on va arriver à 2 heures.
Oh là là là, ce sera 30 minutes qui font 2 heures. Oui, je suis d'accord. Hein.
On est d'accord. Allez, merci à toutes et tous. Salut tout le monde, bonne semaine, bye bye.
Bonne semaine à tous.
Bon week-end de course et bonne orgie à tout le monde.